voix nue. Cette semaine, en hommage à l'écrivain Jim Harrison, disparu le 26 mars dernier, France Culture rediffuse sa série de rencontres avec Clémence Boulouk en 2006. Ce soir, du Michigan à Hollywood.
De l'un de ces rendez-vous forcément manqués entre un écrivain solitaire et l'industrie du cinéma, un de ces rendez-vous si fréquents dans l'histoire de la littérature, Jim Harrison a pourtant tiré plus que des désillusions une renaissance. Renaissance par un mieux-être matériel, mais aussi tout simplement par une inspiration comme catalysée par l'expérience frustrante des studios. Pas de poète en souffrance donc, mais un écrivain raffermi dans ses enracinements et dans ses livres, voilà ce qu'il définit finalement. Au terme de cette période que nous allons explorer ensemble, du Michigan à Hollywood, aller-retour. Des allers-retours, vous en avez fait beaucoup à une certaine période de votre vie entre le Michigan et Los Angeles, Jim Harrison. Jusqu'à la nausée?
A little bit. Toward the end, I think, you know, I'm a counter. I count birds, I count everything. So I think I had 53 trips to between my home and Hollywood. But see, I started because I had a great love of film. The first one was with a documentarian who's known in France. My first contact with film was with Fred Wiseman, who's a fabulous documentarian. But he was going to try to make a film, his first feature film, out of my book, A Good Day to Die.
Peut-être à la nausée vers la fin, oui. Moi, je compte tout, vous savez, je compte les oiseaux, je compte tout. Et j'ai compté que j'avais fait 53 allers-retours entre le Michigan et Los Angeles. Je me suis rendu à Los Angeles parce que j'aimais beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Et j'ai d'abord travaillé avec un réalisateur de documentaires connu en France, Fred Wiseman, qui voulait se lancer dans un long métrage inspiré de mon livre « Un bon jour pour mourir ».
Alors, votre chemin à Hollywood, Jim Harrison, a été tracé par votre ami Tom McGuane, le même qui vous avait suggéré d'écrire des romans. Et c'est Tom qui vous présente à Jack Nicholson. Alors, à l'époque, Jack Nicholson vient de triompher dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il est celui qui aime vos œuvres, il est celui qui vous prête aussi 15 000 $ pour terminer Légende d'automne. C'est celui qui vous ouvre les portes d'Hollywood, mais c'est quasiment un personnage à la Harrison. Jack Nicholson, n'est-ce pas?
No, not so much. He's more too urban. We were very close friends. He actually loaned me $30,000 so I could write. We were too poor at the time, and I was in a depression. And it was actually who introduced us was Toby Rafelson, you know. You know, Bob Rafelson's wife. But she, it was out during that McGuane movie, Missouri Breaks.
En réalité, je crois que Jack Nicholson est un personnage un petit peu trop urbain pour faire partie de ma réalité. Nous avons été de bons amis. Il m'a prêté $30,000 pour m'aider à écrire. Moi, j'étais au milieu d'une dépression à ce moment-là. On avait été présenté par Tom McGuane et d'autres, Toby Rafelson, la femme de Bob Rafelson. C'était à l'époque du tournage de Missouri Breaks.
But he's very much an urban mentality, so I don't. Maybe my newest novella, Republican Wives. If he was younger, he could play the scoundrel. You know.
Jack Nicholson, personnage un petit peu trop urbain. Il pourrait être un personnage des femmes républicaines, une des nouvelles de mon dernier recueil, à condition qu'il soit un petit peu plus jeune. Il pourrait jouer le rôle du sale type, du méchant.
C'est en tout cas tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Vous parlez aussi de vos rencontres avec Orson Welles dans votre recueil d'essais entre chien et loup. Est-ce que c'est une façon de revenir à ce qui était une de vos premières amours, le cinéma, Jim Henson.
See, here's the hard time. Emotionally, it was just a berserk time. See, first the studio tells me I met with John Huston in London, for instance, and John Huston wanted to direct Revenge, okay? But the studio said, no, we don't want John Huston. Okay, that kind of nonsense. And then David Lean wanted to direct Legends of the Fall. This was way before either movie was made, and the studio said, no, he's too expensive.
Il faut bien voir que Hollywood, à cette époque-là, c'était complètement déjanté. Par exemple, il était question que John Huston, avec qui j'étais à Londres, puisse tourner Revenge, la revanche. Mais le studio a dit non, John Huston, on veut pas de John Huston. Vous voyez, c'est totalement ridicule. Puis après, il était question de David Lean pour être le réalisateur de Légende d'automne. Et puis le studio est intervenu en disant non, David Lean, il est trop cher. C'est absurde.
You know, it's a crazy time, but you must understand, I had gone from no money to perhaps too much money, and I didn't know what to do. I didn't know how to behave.
Mais moi, à cette époque-là, je passais d'une période où j'avais très peu d'argent, pas d'argent, à une époque où j'ai eu peut-être trop d'argent, et j'avais peut-être un problème de comportement, moi, à cette époque-là.
But Orson Welles comes up because what Orson and I would mostly do together is eat. See, I had the studio expense account, and Orson was always sort of broke, you know. And he just, so we could every go to Montmaison, we did it three or four times, and just have these extravagant meals from which I still haven't recovered.
Quant à Orson Welles, eh bien, Orson et moi, notre activité préférée ensemble, c'était de manger. Il faut dire que je passais tous les repas aux frais du studio, moi. Orson, lui, à l'époque, était pratiquement sans le sou, et puis on se rendait au restaurant de Los Angeles qui s'appelait La Malmaison, et on se faisait des bouffes absolument géniales, et j'ai encore du mal à m'en remettre aujourd'hui.
It was owned by the same people that owned Tour de Jean, the Terrell family, in the Café Beaujolais, you know, the same people. So it was the best restaurant in Los Angeles.
La Malmaison, restaurant de Los Angeles, dont les propriétaires sont les propriétaires de la Tour d'Argent et du Café Beaujolais, le meilleur restaurant de Los Angeles.
But the closest person now to Orson Welles, very similar in behavior, is Francis Coppola, you know. He's impossible too, like that, you know. Went to Lamy Louis, you know, this restaurant here with about four or five people, and the bill was $5,000 because they drank so much expensive wine, not Côte du Rhône.
Mais le personnage qui me rappelle le plus Orson Welles, je dirais que c'est Francis Ford Coppola, un peu similaire par son comportement personnage, également impossible. Je me souviens être allé à l'Ami Louis, restaurant à Paris, où nous étions 4 ou 5 et l'addition se montait à environ $5,000 en raison du vin. J'aime autant vous dire que c'était pas un mauvais Côte du Rhône.
Alors ces légendes d'automne qui n'ont pas été dirigées par John Huston l'ont été par Edward Zwick avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, sorti en 1994. Il y a eu d'autres déceptions, Wolf, adapté non avec Juliette Binoche, mais avec Michelle Pfeiffer, ou Revenge de Tony Scott avec Kevin Costner. Dalva, votre autre nouvelle, roman, a été adapté pour la télévision. Est-ce que cette histoire avec Hollywood n'est pas tout de même teintée de petites déceptions et de petites égratignures, Jim Harrison?
Major disappointments. Although, curiously enough, I think Pitt did very well in Legends because he's a very physical person. He was quite convincing. But they didn't have enough blood. It wasn't earthy enough, Legends of the Fall. I thought after I saw Legends of the Fall, do they have a dry cleaners next door?
En réalité, oui, mon expérience à Hollywood était faite de grosses déceptions. Bien que Brad Pitt ait été pas mal dans Légende d'automne, c'est un acteur très physique, assez convaincant, mais Légende d'automne, c'était pas assez sanguin, pas assez terrien. Voilà, vous voyez, je me suis toujours demandé si sur le tournage, ils n'avaient pas un pressing, vous voyez.
But the disappointments are inevitable. Films are a director's medium. It's no longer yours. I've been very much happier since I quit 10 years ago. Because I thought I was going to die in Hollywood, and I didn't want to die there. You know, that Spanish idea, you should pick your place, you know.
Mais les déceptions sont inévitables au cinéma. En réalité, le cinéma, ça appartient au réalisateur. Et je me suis trouvé bien plus heureux lorsque j'ai quitté Hollywood il y a une dizaine d'années. Je me suis dit que c'était pas possible de mourir à Hollywood. Je pensais que j'allais mourir à Hollywood, mais c'est impossible pour moi de mourir à Hollywood. À l'espagnol, je préfère choisir l'endroit où je vais mourir.
But when I think of it, I think I was lucky to have access to such people, you know. Or to have dinner with Fellini, which he did, or to know Orson Welles and John Huston or Nicholson. They're all extraordinary people, you know, as people go. Much more interesting than even politicians.
Mais rétrospectivement, je me dis que j'ai quand même eu la chance de faire des rencontres exceptionnelles avec des gens comme Fellini, avec qui j'ai dîné, Orson Welles, bien sûr, John Huston, Jack Nicholson, des gens très intéressants à Hollywood, encore plus intéressants que les responsables politiques.
But there's a problem with actresses, you know. Nicholson warned me early. He says, an actor is three people. But an actress is usually at least five people. You see what I mean?
Mais il y a un problème avec les comédiennes. Jack Nicholson me l'a dit très tôt. Il m'a dit un comédien, lui, c'est trois personnes, alors qu'une comédienne, c'est cinq personnes.
C'est-à-dire?
Well, it's multiple schizophrenia. You know, how many actresses that I've known are fabulous actresses, but they're a different person every day. You almost wonder, now what? Who is she today?
C'est une sorte de schizophrénie multiple. Il y a des comédiennes fabuleuses, mais qui sont pas la même personne du jour au lendemain, et on se demande à qui on fait face un jour pour voir une la personne changer le lendemain.
But I'm also schizophrenic there in Hollywood because I remember talking to a studio executive, and he's boring me at the same time I'm reading the memoir of Pablo Neruda.
Et moi aussi, je dois dire que j'étais schizophrène. Lorsque j'étais à Hollywood, je me souviens d'une anecdote où j'étais face à un responsable d'un grand studio qui m'ennuyait à mourir, et pendant qu'il me parlait, je lisais les mémoires de Pablo Neruda.
Il y a eu des déceptions et d'autres projets qui n'ont pas abouti. Vous avez un projet sur Curtis, ce grand photographe qui, au début du siècle, a photographié les Indiens. Un projet qui vous tenait à cœur parce que il semblerait que, selon vous, le grand film sur les Indiens reste encore à faire.
No, it hasn't. The closest probably was Little Big Man, and a lesser extent, Sherman Alexie made that wonderful film called Smoke Signals. It's very comic too. I mean, it's both up and down.
Oui, c'est vrai, ce film n'a pas encore été fait. À mon avis, ce qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être Little Big Man, ou alors un film formidable qui s'appelle Smoke Signals, dont l'expression est dans plusieurs dimensions.
But, yeah, I would say Curtis was my biggest disappointment, you know, because I worked so hard on that one. Sometimes, I admit, they paid a fortune to teach me how to write screenplays. Because I didn't take it too seriously. I was making money for the next novel, you know. Because I would write a screenplay, and then I could take a whole year to write a novel, which is quite nice.
Le projet du photographe Curtis, c'est vraisemblablement ma plus grosse déception, parce que j'avais beaucoup investi en travail dans ce projet. En réalité, le cinéma, moi, ça me permettrait de gagner de l'argent en apprenant à écrire des scénarios, et je ne prenais pas ça au sérieux. Ça me permettait d'envisager le roman suivant. On me donnait un an payé pour travailler sur mon roman suivant. C'était pas mal.
And if I did a bad job, they would say to me, or my agent said, Harrison is getting miserable. We're cutting his pay to $200,000. That's all we'll give him.
Et s'ils trouvaient que le scénario n'était pas à la hauteur de leurs espérances, ils disaient à moi ou à mon agent, Harrison, ça va plus du tout, on va seulement le payer $200,000.
See, so it's silly because it's still such an insane amount of money for someone coming from the Midwest, you know. This is supposed to be punishment, you know.
Oui, c'est totalement ridicule, c'est insensé comme somme, surtout pour quelqu'un qui vient du Midwest. $200,000, c'est quand même pas une punition.
Hollywood a rendu différent votre rapport à l'argent. C'est un argent que vous êtes incapable de garder et un argent dans lequel vous lisez d'une certaine manière votre appartenance à la classe moyenne. Une façon d'être en marge en l'observant couler à flot, Jim Harrison.
Well, I mean, I had no sense, I never have had, still don't, a sense of money. I spent the money somehow. But then it enabled me finally to exist until when I quit Hollywood about 10 years ago, I finally could make a living as a literary novelist.
Je n'ai jamais eu le sens de l'argent. J'ai dépensé l'argent que j'ai gagné. Et lorsque j'ai quitté Hollywood, il y a une dizaine d'années, j'ai pu commencer à vraiment gagner ma vie en tant que romancier, aussi grâce à ce que j'avais acquis à Hollywood.
Because that's quite rare. See, I haven't had to teach, you know, and I don't have to write screenplays anymore, so that's quite pleasant.
Je suis dans une situation assez rare. Je n'ai jamais été obligé d'enseigner ni obligé d'écrire des scénarios. C'est assez plaisant.
C'était aussi peut-être une nécessité de quitter Hollywood, Jim Harrison, puisque vous parlez de cette période qui était aussi une période d'addiction en tout genre. Je vous cite, « Ma vie était une espèce d'hystérie que j'essayais de maîtriser avec l'alcool et la cocaïne. »
Well, part of it, you know, Terry Frémaux, who is the director of the Institute Lumière, and he runs the Cannes Film Festival. The Cannes Film Festival. Anyway, he asked me this year to be on the jury in Cannes, okay? And I says, no, I can't do it. It's like returning to a world that you had to run away from, you know? And I have a, what do you call, an addictive personality, you know?
Les addictions, oui, ça me rappelle Thierry Frémaux, donc de l'Institut Lumière et du Festival de Cannes. Il m'a demandé si je voulais faire partie du jury du Festival de Cannes. J'ai un petit peu réfléchi, j'ai dit non, 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 je ferai pas ça parce que ce serait un retour vers un monde auquel j'ai dû m'échapper. Et c'est vrai que ma personnalité est faite dans une certaine mesure d'addiction, d'accoutumance.
See, in other words, I love movies. In America, we have now what is called Netflix. You know, you can get, I get 10 at a time. So the last thing I do when I finish work at 11 o'clock at night, I watch a film. But I can't trust myself to go to Cannes for 11 days. You know, I would disintegrate.
Par exemple, j'aime beaucoup le cinéma et j'utilise les films en ligne sur Internet. J'en reçois 10 en même temps et lorsque je finis de travailler à 23h avant d'aller me coucher, la dernière chose que je fais, c'est de regarder un film. Mais aller à Cannes et y passer 11 jours, c'est impossible. Je me désintégrerai.
Alors, je vous cite aussi, 1000 films m'ont empoisonné l'esprit. Faites-vous dire à un de vos personnages. Alors, on parlera pas ici d'esprit empoisonné ni d'addiction. Mais en quoi votre écriture romanesque a-t-elle été modifiée par l'écriture cinématographique? Et l'a-t-elle été d'ailleurs, Jim Harrison?
I don't think that much, but here's an interesting point. I thought, if anything, it probably improved it, you know. Because there's an immediacy in script writing that tends to make your fiction more visceral. Because when I write a novel, I have to see everything first, each scene. You know, each master, as they say. I have to visually see my novels, and I think that probably started with script writing.
l'écriture du scénario a eu une influence sur mon écriture de roman, mais pas tant que ça. Je dirais que l'écriture de scénario a peut-être amélioré ma prose de par son immédiateté. L'écriture de scénario rend la prose plus viscérale. Lorsque j'écris un roman, c'est absolument nécessaire pour moi de visualiser chaque scène. Et je crois que ça me vient de l'écriture du scénario, cela.
Votre rapport à Hollywood, donc teinté de déception, reste pourtant un rapport lucide. Vous ne nourrissez pas d'aigreur absolue vis-à-vis des studios ou de l'industrie. Et par exemple, vous dites à de nombreuses reprises que la légende de l'écrivain broyé vous insupporte. Et alors celle de Faulkner, plus encore. Jim Harrison.
No, Faulkner wasn't the least bit crushed by Hollywood. During the Depression, when everybody was poor, he was making up to $5,000 a week writing screenplays. So he could support about 15 people, you know, his family, relatives, cousins. So, no, I don't, that's all a mythology. Writers like to whine, but why did they go to Hollywood? For greed, you know, they want money.
Faulkner, quant à lui, n'a pas été broyé du tout. Au pire moment de la dépression, lui, il gagnait $5,000 par semaine à écrire des scénarios et ça lui permettait de subvenir aux besoins d'une quinzaine de personnes, de sa famille, de son entourage. Les écrivains sont des gens qui râlent et qui se plaignent, mais pourquoi est-ce qu'ils vont à Hollywood? Eh bien, c'est par cupidité, c'est pour gagner de l'argent.
No, the only regret I did is I wasn't associated. Now, here's how crazy it is, or it can. I saw the night, you know this French director, Jean Renoir? Uh-huh. Okay, I see this film. I've never seen this film, Bête Humaine, where Jean Gabin is the train, you know, love and death. Now, I was overwhelmed by this movie. I don't know. I was very vulnerable. And it gave me an urge to write a similar movie, you know. So it never goes totally away.
En fait, cet amour du cinéma, ça peut être totalement insensé. Le réalisateur français Jean Renoir, dans La Bête humaine, on y voit Jean Gabin dans sa fameuse locomotive. C'est une histoire d'amour et de mort. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais très touché, j'étais très vulnérable à l'époque et je me suis dit, il faut que je fasse la même chose. D'où le besoin, le désir de faire un film similaire.
Because Hollywood... Why so many movies are stupid is they're always on the periphery. They're never in the center. You know, they don't have enough punch. It's easier to stay out on the periphery, you know. But Jean Renoir, wham, right in the middle, you know.
À Hollywood, il y a beaucoup de films qui sont un peu stupides parce qu'ils se contentent d'être à la périphérie. Ils ne sont pas au centre des choses. Ils manquent de punch. C'est plus facile de rester à l'extérieur, en périphérie. Alors que Jean Renoir, lui, il savait aller en plein dans le mille.
Est-ce que finalement ce passage par Hollywood, Jim Harrison, n'a pas rendu encore plus nécessaire le retour à la nature?
It's funny, I was drifting away because after I saw the screening of Wolf and I was very disappointed, they really fucked up that movie. I was driving through the forest in my car and I found a lake that I had never seen before. I said, where did this lake come from? It was like a dream lake. So I walked around this lake. It took a couple hours. And then I was okay. I'd found something new, you know.
Après avoir vu la projection de Wolf, j'étais très déçu, dépité même. Je suis rentré chez moi, je conduisais à travers la forêt, puis tout à coup, je tombe sur un lac que je n'avais jamais vu auparavant. Je me dis, mais d'où il vient ce lac? Je suis descendu de ma voiture, j'ai fait le tour du lac, ça a duré 2 heures environ, je me suis promené, et puis après ça, ça allait mieux.
Alors après cette expérience in vitro des studios, demain c'est de votre rapport à la nature qui a été rendu encore plus nécessaire par ce passage à Hollywood, dont nous parlerons avec vous, Jim Harrison. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jim Harrison avec Clémence Boulouk en 2006. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, Anne-Catherine Lochard, réalisation Véronique Samouilov, Delphine Lemaire, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.